lettre coréenne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Votre émission Lettres coréennes consacre le mois de juin au récit des écrivains d'origine nord-coréenne installés au sud du 38e parallèle qui sépare la péninsule en deux. Le deuxième de cette série spéciale est La Dame de la Cabane, écrit par Kim Jong-hae.
C'était le matin, le cri d'un faisan venu de la montagne brisa le silence. Une cabane implantée à l'entrée de la colline, juste devant la forêt, donnait l'impression qu'elle risquait de s'effondrer à tout moment. D'habitude, à cette heure de la journée, les rires des enfants résonnaient dans la cour ensoleillée. Parfois un jeune couple, le visage parcheminé dû à la famine, se présentait, mais ce jour-là, il n'y avait aucun signe de vie.
L'auteur Kim Jong-hae est né en 1968 à Cheongjin, dans la province de Hamgyong du Nord, dans le nord-est du territoire nord-coréen. Ancienne membre de l'association d'écrivains de sa région natale, elle poursuit sa carrière même après avoir fui la Corée du Nord en 2005. La Dame de la Cabane est une nouvelle publiée en 2019 qui se déroule autour de Kyung Sim, la Dame de la Cabane, et sa famille. Le mari de notre protagoniste est un ouvrier de chantier et le couple a 12 enfants, Sun Chol et Sun Yang. L'histoire commence par une scène où des responsables du Parti communiste visitent leur cabane.
Depuis que la période de famine appelée marche forcée avait commencé et que les rations n'étaient plus distribuées, ceux qui ne pouvaient pas aller travailler en raison de la pénurie de nourriture devaient remplir leur quota de production baptisé 8.3. Il s'agissait de fabriquer des marchandises avec des matériaux réutilisés selon les spécifications du Parti communiste et les offrir à leur lieu de travail ou aux organisations du parti. C'était pour ainsi dire une tâche sociale assignée à chaque lieu de travail. S'ils n'avaient pas de marchandises à fabriquer, ils devaient donner une somme d'argent proportionnelle.
Le secrétaire du parti vient donc chez Kyung Sim pour percevoir la contribution. La récolte de l'an dernier a été très mauvaise. Je n'ai même pas une seule pomme de terre à stocker dans le hangar. Regardez ces semences, c'est tout ce que j'ai pour cette année. Je devrais en acheter plus pour joindre les deux bœufs.
Ah, vous avez donc l'argent pour acheter des semences, mais vous n'avez rien pour vos lieux de travail, c'est bien ça ?
Camarade secrétaire, je n'ai vraiment rien à vous donner. S'il vous plaît, fermez les yeux cette fois-ci. Je vous promets de payer notre contribution le mois prochain.
Vous pouvez toujours emprunter un voisin et lui promettre de le rembourser le mois prochain. Si vous avez vraiment du mal à vous procurer l'argent, nous pouvons prendre ces pommes de terre à leur valeur marchande.
Pas possible! Vous voulez les prendre? N'avez-vous pas dit que le parti est notre mère? Quel genre de parents enlève quelque chose par force alors que ses enfants meurent de faim? Allez-vous vraiment prendre ces semences?
Vous ne payez pas alors? D'accord, faites comme vous voulez. Mais dites à votre mari d'aller au chantier de construction du tunnel de la mine dès demain. Le tunnel de la mine de Naksan était un chantier dangereux et dur. Les travailleurs devaient creuser la couche rocheuse à main nue à l'aide d'une pioche. Personne ne souhaitait y travailler à cause des repas affreux et des accidents mortels fréquents. Kyung Sim, qui était si courageux jusque-là, baissa les yeux avec résignation.
Notre protagoniste est obligé de renoncer à ses précieuses semences de pommes de terre. Voici Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous en dit un peu plus là-dessus.
원래 농가에서
Les agriculteurs gardent les semences jusqu'à la saison prochaine. Celles-ci ne sont donc pas destinées à la consommation. Cette scène montre à quel point il est cruel pour les Nord-Coréens ordinaires de les céder pour ce fameux quota 8.3. L'auteur décrit le système administratif impitoyable du régime communiste qui escroque même son peuple affamé.
이 작가의 날카로움을 보여준다 이렇게 얘기할 수 있는데
Kyung Shim apprend que le secrétaire du parti a échangé les pommes de terre ainsi arrachées contre quelques bouteilles de spiritueux. Elle est tellement furieuse qu'elle n'arrive pas à dormir pendant des jours. Elle est maintenant à bout de force, comme si son corps s'enfonçait sous terre.
Elle se souvint de l'expression « ne pas avoir même la force de mourir ». Elle ne pouvait rien faire, peut-être parce que son espoir de gagner de quoi vivre en plantant des pommes de terre avait été anéanti, ou que son espoir de se gaver de ce tubercule bouilli avait été ruiné.
Son époux et leurs 12 enfants, tous affamés depuis 12 jours, ont à peine la force de se lever de temps en temps pour boire une gorgée d'eau. Idiot, imbécile, pourquoi ai-je épousé un homme qui ne peut même pas protéger sa famille ? Elle envoie son mari qui se lève de son lit pour rouler une cigarette.
Elle se rappela de la saveur du poulet que son mari lui avait donné la nuit de noces 10 ans auparavant. Bien qu'ivre, il le lui avait apporté car la nouvelle mariée devait attendre sagement son époux dans la chambre sans rien manger pendant qu'il buvait en compagnie de ses amis. Mais il s'était endormi juste après l'avoir posé devant elle, oubliant même de se mettre au lit nuptial. Kyung Shim avait dévoré le poulet. Elle aurait dû au moins éteindre la lumière, mais elle ignorait que des gens avaient percé des trous dans la fenêtre traditionnelle recouverte de papier pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il n'était pas surprenant que le lendemain matin, une affiche indiquant « une mariée qui a dévoré un poulet entier » ait été collée sur la porte. C'était tellement embarrassant. Même si elle avait rougi de honte, elle n'avait aucun regret car son souhait avait été exaucé. Quand aurait-elle eu la chance de manger un poulet entier si ce n'était pas le cas ? Les femmes devaient généralement se contenter de riz mélangé à du maïs ou de la croûte de riz raclée au fond du four. Et son rêve s'était réalisé le jour de son mariage. Elle se souvenait encore très bien de la délicieuse saveur grasse du poulet.
Mais son doux souvenir appartient au passé. Des gens meurent chaque jour dans son village. Kyung Shim a peur que la prochaine personne à être enterrée dans le cimetière soit l'une de sa famille. Elle se dit « Espèce de folle, comment oses-tu t'appeler mère ? À quoi servent la chasteté et la fierté alors que tes enfants sont en train de mourir de faim ? Tu es complètement foutu. Ton corps ne vaut rien. » Une semaine plus tôt, elle est allée à un marché situé à 40 km de chez elle pour vendre des algues, puis elle a acheté des nouilles avec l'argent ainsi gagné. Lorsqu'elle rentrait à la maison, un homme s'est approché d'elle.
« Mademoiselle, puis-je vous demander une faveur ? Ma femme est à l'hôpital pour s'occuper de mon enfant malade. Pouvez-vous venir chez moi et cuisiner pendant environ une semaine ? Je vous paierai 1000 won. »
Elle peut acheter 20 kg de riz avec 1000 won. Elle ne pourra jamais gagner une telle somme en vendant des algues sur un marché loin de chez elle. « Monsieur, pourquoi voulez-vous me payer autant d'argent juste pour la préparation des repas ?»«
Eh bien, vous pourriez faire autre chose que cuisiner. Cela peut être agréable si vous y réfléchissez. Vous pourriez dormir avec moi la nuit, c'est tout. »«
Quoi ? Dormir avec vous ? Non, merci. »
L'or est de l'or, peu importe d'où il vient. Alors ? Puis, il lui attrapa subrepticement la main.
« Laissez-moi partir, vous n'avez qu'à aller à la gare, où une fois qu'il fera nuit, vous verrez des dizaines de femmes vendant des fleurs. Et moi, je ne suis pas ce genre de femme, alors lâchez-moi » !»«
C'est justement parce que vous n'êtes pas ce genre de femme. Vous êtes en or, je vous achèterai aussi des nouvelles robes et une lotion parfumée. Venez chez moi !»
Lâche-moi, sale dégénéré. Comment oses-tu ? Kyung-shim regrette maintenant d'avoir refusé la proposition de l'homme. Elle aurait pu sauver sa famille de la famine. Soudain, elle remarque que ses enfants et son mari ne peuvent à peine ouvrir les yeux. Elle pense qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est alors qu'une rafale de vent fait tomber un pot en aluminium de l'étagère. C'est celui que Kyung-shim a rapporté de chez ses parents lorsqu'il s'est marié. C'est aussi la seule chose qui a de la valeur dans sa maison. Elle met ce précieux pot dans un vieux sac et crie à sa famille. « Sun-chol, Sun-gyeong et chérie, tenez bon jusqu'à ce que je revienne. Je vous apporterai de quoi manger. » Son époux la supplie de ne pas aller seule au marché. Elle se rend donc chez Eun-shim pour demander à la mère de celle-ci de l'accompagner. Mais la grand-mère de la petite fille lui dit que sa belle-fille y est déjà allée la veille.
« Elle ira probablement demain et vous n'avez qu'à la rejoindre. »«
Non, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Au revoir. »«
Pourquoi allez-vous au marché ?»«
Je vais vendre un pot. »«
Un pot ? Mais lequel ?» La vieille dame ouvrit le sac. Elle savait déjà que le pot en aluminium brillant dedans était le cadeau de mariage de Kyung-shim. Surprise, elle la regarda longuement. Sachant ce que signifiait le regard de sa voisine, Kyung-shim lui expliqua pourquoi elle devait le vendre. Elle ne pouvait quand même pas lui dire que sa famille s'était nourrie de bouillie d'herbes sauvages pendant quelques temps, puis uniquement d'eau durant les deux derniers jours. Elle finit par fondre en larmes. « Je ne savais pas que votre famille mourait de faim. Vous auriez dû me le dire. N'avez-vous pas entendu dire qu'un voisin vaut mieux qu'un parent lorsque vous êtes dans une telle situation ?» Les sanglots de Kyung-shim s'intensifièrent avec les mots réconfortants de la vieille dame. « Prenez notre maïs pour votre famille. Vous pouvez nous le rembourser avant que nous manquions de nourriture. »«
Vous nous sauvez la vie. Merci. » Kyung-shim ramène du maïs pour sa famille grâce à sa généreuse voisine. Écoutons la critique littéraire Chun So-young qui nous explique ce que signifie la solidarité entre femmes dans cette histoire.
Toute la famille meurt de faim, mais Kyung-shim est la seule à essayer de faire quelque chose pour sauver les siens. Son mari est incompétent et le secrétaire du Parti communiste exploite les paysans pauvres au lieu de les aider. Bien que la société nord-coréenne soit patriarcale, ce sont souvent les femmes qui assument l'entière responsabilité de prendre soin de leur famille, et cela en particulier depuis la crise économique de la fin du XXe siècle. Dans ce récit, Kyung-shim représente la souffrance et la persévérance des femmes nord-coréennes. Vers la fin, la grand-mère d'Eun-shim partage sa nourriture avec elle. Cette scène nous laisse entrevoir le regard bienveillant que l'auteur porte sur la solidarité féminine.
Notre protagoniste court chez elle avec le sac de maïs. Quand elle le pose sur le sol, il s'ouvre, renversant des grains de maïs dans toute la pièce. Son mari et ses enfants se jettent là-dessus, marchant à quatre pattes, et les dévorent. Le seul bruit qu'ils peuvent entendre dans la pièce est le craquement des grains de maïs.
Kyung-shim tomba lentement au sol en observant le comportement misérable de sa famille. Elle sentit qu'elle allait perdre conscience et que son corps s'enfonçait petit à petit sous terre. Elle savait ce que c'était de ressentir la mort parce qu'elle l'avait déjà vécue. Mais contrairement à la veille, elle sentit son cœur se calmer. Elle était triste l'autre soir, mais maintenant elle était heureuse. Elle était en train de mourir, mais sa famille vivrait. Non, elle les avait sauvés. Son cœur était rempli de satisfaction d'avoir retiré ses enfants de la famine et de la mort. Et ce n'était pas seulement un sentiment, mais un fait. Sa famille ne remarqua même pas que Kyung-shim mourait. Elle ne voyait plus que les vies qu'elle avait sauvées et non pas les grains de maïs renversés sur le sol. Elle cessa de bouger, mais garda les yeux ouverts pour les voir jusqu'à la fin. Son cœur cessa de battre. Un sourire persistant fleurit comme un lys sur son visage émacié.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Kim Jong-un, la dame de la cabane. C'était Yun Yeni au micro avec Maxime Lalou au doublage et Kim Hong-joo à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.